Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Ictus. Ictus est un mot d'origine latine qui signifie crise. Ictus, c'est le titre du dernier roman de Bayon, mon invité du jour, édité par Fayard. L'ex-rock critique du quotidien Libération est donc avec nous. Et à première vue, il a l'air en forme, comme un joyeux retraité rock'n'roll qui a échappé à toutes les épreuves fatales. Non, alors vraiment, Bayon va bien, merci. C'est son double littéraire qui nous inquiète. Dans Ictus, il n'arrive plus à reconnaître la dizaine de livres qu'il a pourtant écrits. Comme si ses propres livres se dérobaient à lui, se retournaient contre lui. Étrange, hein ?
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Alors ça commence par des vacances, hein, des vacances entre amis, dans un presbytère, quelque part en Bretagne, tout y est paisible, dans ce cadre idyllique parfait pour se remémorer les bons souvenirs de jeunesse. Les années Libé, par exemple, quand Libération était encore un journal de référence. Mais on ne répétera jamais assez qu'il faut se méfier des enfants et de leurs questions soi-disant innocentes. Bonjour Bayon.
Bonjour, Toufik.
C'est donc un gamin de 6 ans qui, avec une question toute simple, est à l'origine de ce dernier livre qui ne l'est pas tant que ça. La question, hein, pas le dernier livre, elle n'est pas si simple que ça, puisqu'il vous a fallu écrire tout un livre, Ictus donc, édité par Fayard, pour tenter de répondre au môme. C'était quoi la question ?
La question c'était, c'est toi qui as écrit ces livres. Et il était venu, c'est une question assez imagée, parce qu'il portait, dans mon souvenir, plus ou moins altéré, car il est question d'altération de la mémoire, il portait ses livres entre ses bras, en couronne, comme ça, où voilà, il y en avait tout un tas c'était essentiellement des livres jaunes, des livres grassés. Et donc la question c'était, est-ce que c'est toi qui as écrit ces livres ? Et la réponse, malheureusement, n'a pas du tout été, oui bien sûr, comme elle aurait dû l'être.
Pourquoi ?
Parce que tout s'est désagrégé à ce moment-là, quand vous dites ictus, tout à l'heure vous présentiez le mot ictus, ça donne son nom, cet accès désigne un état neurologique spécial, c'est une amnésie brutale, violente et très très affective. Donc au moment où cet enfant me présente mes livres.
Les livres que vous avez écrits auparavant.
Je ne les connais pas. Ce ne sont plus mes livres. Et c'est terrible parce que je vois que cet enfant attend quelque chose de moi. Il est fier. Il est même fier de sa découverte. C'est un enfant qui est proche. C'est un enfant intime. Comment lui cacher au moment où je ressens ce trouble qui est assez grave. Je ne sais pas comment lui dissimuler ce trouble. Donc il faut que je donne le change, je tourne autour du pot, je lui dis mais je sais pas où j'en suis du tout.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Bayon,
c'est-à-dire que vous ne reconnaissiez plus ni les titres ni les contenus.
Ni à la limite ni même mon nom. J'ai pas souvenir du nom, mais c'était les objets qui étaient là n'avaient aucun sens pour moi, je ne les connaissais pas, ils n'étaient pas de moi. C'est-à-dire qu'une partie de moi n'était plus moi. Il y a une véritable altération. Ça peut sembler burlesque comme ça. C'est d'ailleurs indicible.
Non, essayez d'imaginer. Est-ce que c'est la même sensation, par exemple, lorsqu'on retrouve des vieilles photos où on ne se reconnaît plus, ou lorsqu'on retrouve des photos d'amis et que la moitié d'entre eux sont déjà partis? Est-ce que ça ressemble à ce sentiment ou c'est autre chose?
Non, c'est même pas un déjà vu. Mais ça ressemble. Il faudrait partir de là. Oui, il faudrait partir de là, de quelque chose comme ça. Mais sauf que là, c'est une sensation totalement inédite. C'est une sensation de désorientation complète, mais qui concerne la conscience de soi, la conscience réflexive. Descartes n'a pas pensé à en parler dans son cogito, mais c'est je pense donc je suis, mais pas forcément, parce que là, au moment où se produit la scène, je pense bien, je suis bien dans une certaine mesure, mais je ne suis pas tout à fait moi, puisque la part de moi qui est concernée par les livres ne répond plus présent. Donc, je pourrais parler de la chose autrement en évoquant le cas de quelqu'un que je ne nommerai pas, mais je vais quand même le désigner. Je veux dire, c'est le père d'un chanteur. le père d'un chanteur ami, personne fort respectable, voilà, de mon âge à peu près, qui se retrouve dans le 16e, totalement égaré. Il sait plus comment il est venu là, pourquoi il est là, comment. Donc il est considéré comme vraiment. Il finit par, je sais pas, être pris en main par des policiers ou des passants qui le dirigent vers des policiers. Et
mais là, on peut dire qu'il perd la mémoire. On peut même parler d'Alzheimer pour aller dans le.
Oh voilà, on peut. On pense.
Ce n'est pas le cas.
Si, c'était son cas a été diagnostiqué ictus. Son cas était c'est au même moment où
ictus donc.
Ictus amnésique. C'est un choc violent de la conscience, en général, dans un contexte de forte surcharge émotionnelle. Donc, dans son cas, dans le cas de cet ami, cette relation, il y avait quelque chose. Il travaillait depuis, il était hanté depuis des semaines, des mois, par le cas par un cas de pogrom en Alsace. Un brave type qui a été pris, enveloppé dans un complot affreux. Un cas d'antisémitisme, de panique antisémite, comme il y en a eu tant. Ça doit se passer au 18e, je crois. Et il avait découvert ce cas-là, et il travaillait là-dessus, et il devait produire, même il devait écrire quelque chose dans une revue là-dessus. Et l'intensité de ce qu'il ressentait par rapport à cette horreur, au fait que le type qui était un paisible négociant du coin, installé là depuis des siècles, qui a été massacré, convaincu des pires horreurs. Le fait qu'il travaillait là-dessus et qu'il était si intensément pris par son sujet a dû le projeter dans une dimension à un moment donné, faire que son quelque chose a claqué dans son appréhension du réel. Donc, au bout d'une semaine, lui, je crois que ça a un peu plus duré. Il est entré en.
Et en ce qui vous concerne, vous, Bayon, c'était quoi? Qu'est-ce qui a déclenché? Parce que quand vous êtes.
Si, ça, je peux vous le dire, ça c'est très. Maintenant, avec le recul, parce que je me suis efforcé 2 ans après, mais non sans trouble de nouveau, à considérer le temps qui s'était écoulé depuis cet épisode. Enfin, depuis que j'ai ressaisi tout ça, sur le mode quasiment de ce qu'on appelle en philosophie l'approximation de données, je crois, on dit ça, l'approche de données, on essaye de cerner le trou. Il y a un trou, un mot, un terme. Donc on approche du terme, on essaie de comprendre, de cerner ictus. Le terme, c'est ictus. Il est hermétique, il est nébuleux.
Tout ce que vous racontez dans Ictus, Bayon, a été vécu.
Ah, c'est du vécu. Absolument pas. Ça devrait pas être roman. Ça devrait être dur. Tout ce que j'ai écrit devrait.
Je vous pose
être...
cette question parce que c'est une belle trouvaille littéraire que d'écrire un roman pour retrouver les romans qui se sont déroulés à nous.
Oui, le livre, mais ça devrait être du romanesque, en fait. La clause de style de mes livres, ça devrait être le romanesque. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Il me semble qu'on s'est égaré par rapport à votre question. Il y a eu un petit dérapage, mais.
Que vous avez eu un choc émotionnel.
Alors voilà. Voilà, le choc, oui, il est très simple. Le choc, c'est un livre sur un lieu, c'est un livre sur un enfant en rapport avec, ça aurait pu s'appeler les vieux livres et l'enfant, quelque chose comme ça. Et donc, cet enfant, ce qui ne peut pas se raconter dans le livre, cet enfant est un orphelin, comme sa sœur, de fraîche date. Il est victime d'une, il est l'enfant d'une femme qui a péri dans un atroce accident de tournage en Argentine dont.
Et ceux qui ont lu vos romans précédents savent de quoi vous parlez d'ailleurs.
Voilà. Donc, il y a eu 10 morts, un accident de tournage qui a fait un massacre de 10 morts. C'est l'enfant de cette femme, donc ça fait évidemment une onde de choc terrible. On peut considérer que l'ictus vient du remue-ménage de cette commotion, de ce que ça fait dans la famille. Moi, je suis à l'extérieur de cette famille puisque je ne suis qu'une pièce rapportée, mais c'est une réaction, c'est ce qu'on pourrait appeler, dommages collatéraux, c'est un dommage collatéral de cette scène de crime épouvantable télévisée. Donc ça produit cet effet curieux qui est qu'au moment où un enfant me parle ou un enfant qui est orphelin, qui est d'un mois, sa mère est morte un mois avant, il me parle de mes livres et je sais pas, quelque chose se brise en moi au moment où je confronte cette candeur. Je me dis je sais pas du tout ce qui se produit, mais il y a un court-circuit.
À quel moment?
Et le court-circuit, après cette amnésie, après ce qui est encore plus troublant, c'est qu'elle dure. C'est que il y a la scène, et puis bon, la vie continue, mais ça n'est que plus d'un an, 2 ans après que je me dis, mais que je reviens à cette scène et que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que ça veut dire?
Et c'est la question que je voulais vous poser, Bayon. À quel moment le livre s'impose comme une sorte de thérapie? Mais peut-être que je me trompe.
Non, en thérapie. Non, voilà, c'est tout à fait ça. C'est de la panique, en fait. C'est un réflexe panique qu'il faut combler. Il y a un trou. Donc, le premier réflexe, c'est de mettre dans ce trou incompréhensible des choses qui s'approcheraient tant bien que mal de ce qui manque, de l'incompréhensible, de l'indicible, sachant que l'indicible, à mon niveau, enfin à mon stade, peut-être de... Il y a un personnage chez Conrad qui est présenté comme un fantôme blasé. C'est un peu arrogant, mais à mon stade de fantôme blasé de Lord Jim, c'est une sorte de sale type dans Lord Jim, l'indicible devient un sujet terrible à saisir. Il n'y a que ça qui intéresse normalement l'écriture. C'est l'oracle, l'augure, comprendre les signes. Et donc, à un moment donné, effectivement, peut-être un an et demi, 2 ans après, en tout cas, je me souviens que c'était à Nice. On était en villégiature à Nice, donc en période de fête, et j'ai commencé à déconstruire, enfin à ruminer cette chose-là, et ça donnait par flocculation, par agglomération, ce livre sur le non-livre, oui.
Voilà, vous avez cité des noms d'écrivains, de philosophes, mais il y a d'autres références dans votre livre, Bayon. Il y a toute la culture rock, on en parle dans un instant.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Toujours cet étranger, mon garçon, un rebelle dans vos villes de contraste. Il n'en veut plus, il n'en veut plus. Je remets vite mon sombrero, dès qu'on crie action, elle est bonne, ça va pour le son. Il n'en veut plus, il n'en veut plus. Je nettoyais la cheminée de Ramona. Je suis parti avant que la Sénora me dise merci. Il n'en fait plus. Il n'en fait plus. Après toi, baby, c'est l'heure de zoner. Demain, j'ai une attaque de train. Oh, c'est préservé si on veut durer. Reste toujours numéro un. Après 5 bébés, qu'est-ce que je vois? Mot d'adieu sur le buffet. Faire ça à moi d'habitude quand je rentre, tout est vrai. Il n'en fait plus. Il n'en fait plus. Il n'en fait plus. Il n'en fait plus. Je serai toujours cet étranger, mon garçon, un rebelle dans nos villes de contraste. Il n'en fait plus.
J'avais oublié mes livres, tous les livres présents, puis je les ai retrouvés. Mieux serait de dire qu'ils m'ont retrouvé, que je m'en suis ressaisi, ressouvenu. C'est entendu, fin de l'épisode, voir. Mais qu'est-ce qu'ouvrait que ce souvenir de mes livres, ou plutôt que cet oubli d'entre deux, puis ce souvenir de oublier, puis cet oubli de leur oubli. extrait d'Ectus de Bayon, mon invité. Vous avez écouté Alain Bachung, ça vous rappelle les bons souvenirs?
Ah oui, ça m'a tristé, ça me...
Ouais. Il y a beaucoup de fantômes qui hantent votre roman.
Mais il était revenu récemment, j'ai été bouleversé, c'est la première fois que je réécoutais Bachung.
Avec Immortel?
Non, avec une chanson qui s'appelle Les Salines, qui était une chanson à l'histoire très étrange, presque sur le mode Ictus, qui était une chanson que Raphaël m'a bien présentée, qu'il avait oubliée, qui lui est revenue, qu'il avait donné, une chanson qu'il avait donnée pour Bleu Pétrole. Puis il avait jamais eu de retour de Bachung, mais un soir il me dit, tiens, mais j'ai ça, écoute, et ça m'a bouleversé ce texte qui était en transe, qui présentait, où Bachung parlait presque de l'au-delà en disant j'atteindrai peut-être pas le paradis, mais Dieu sait que j'aurais essayé. C'est bouleversante, mais ça m'a brisé le cœur.
Vous n'avez pas écouté Immortel, Bayon?
Eh ben non. Je n'ai pas écouté, ça m'a tellement bouleversé que je n'ai pas écouté le reste de l'album. J'ai le reste de l'album à la maison. Mais le morceau de Les Salines.
Immortel, pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne?
Oui.
Alors, je vous pose cette question parce que vous vivez avec les fantômes. Hein. Ictus, c'est pas seulement l'histoire d'un écrivain qui ne reconnaît plus ses livres et qui écrit un livre pour essayer de les retrouver, de les reconvoquer. Et c'est exactement la même chose que vous devez vivre quand vous écoutez une chanson de Serge Gainsbourg que vous avez interviewé avant sa mort pour que cette interview passe après sa mort. C'est-à-dire vous jouiez déjà avec la disparition que Alain Bachung, les années libées, ils sont aussi dans ce livre Ictus.
Oui, mais en lumière qui s'éteint, je dirais.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
La lumière qui s'éteint, c'est le titre d'un livre de Rudyard Kipling sur un type qui perd la vue. Et voilà, je trouve que c'est un très beau titre, la lumière qui s'éteint. Et donc, c'est quelque chose, c'est une vague résonance, une vague réminiscence, mais qui s'éloigne, c'est très très loin, c'est une dérive. Bachung, Gainsbourg, tout ça est très très loin. Est-ce que je vis tant que ça avec eux? Je vis pas tant que ça avec eux. Je suis pas nostalgique, on pourrait dire. Je suis hanté, mais pas nostalgique. Peut-être parce que je suis né très loin, je suis né déraciné, je suis né en brousse, mais sans y vivre tant que ça, en changeant de pays, de maison, et donc.
Mais longtemps, votre métier d'écrivain, et on apprend dans Ictus que c'est une passion qui date de votre très jeune âge, hein, longtemps votre métier d'écrivain se confondait avec celui de rock critique, donc avec la vie de tous ces chanteurs que vous avez accompagnés.
Oui et non. Oui et non, je pense que il se superposait, mais je pense qu'il représentait une sorte de couche aveugle, cachée, et que j'utilisais, la façon de écrire sur le rock, sur le cinéma, sur les navets, sur les livres, un tout petit peu avant que je ne m'arrête en considérant qu'il y avait incompatibilité entre le fait d'écrire et le fait d'écrire sur les livres. Tout ça, c'était du journal, c'était du quotidien en plus. Un peu dans des magazines, mais essentiellement du quotidien. Et donc, c'est pas la même forme d'approche de l'écriture. Et ce qui concernait les livres, c'était en retrait, c'était dans l'ombre, monastique en fait, un peu. Par moments, il me prend le soupçon, je me soupçonne avec des livres comme Ictus, je me demande si ce sont pas des choses qui servent essentiellement à terroriser. Si c'est pas justement l'écriture les articles, même s'ils avaient leur charge, leur poids d'hermétisme ou d'incompréhensible, ils étaient accessibles. Les livres, je pense que c'est une façon de...
Enfin, vos articles accessibles, ceux qui se souviennent de vous doivent bien rire, hein, Bayon.
Bon, c'est pour ça que j'y mettais des conditions, des réserves, mais
c'était un jeu, ça, vous pouvez le dire maintenant. Il y a prescription. C'était un jeu.
Non, non.
Vous vous arrangez pour que personne ne comprenne rien.
Non, disons. Non, ce qui irait dans le sens de votre question, c'est que l'écriture des articles, qui aurait dû être simple, tendait à la complexité, tendait à rejoindre celle des livres. Donc il y avait quand même quelque chose qui se redoublait. Mais il n'empêche que les livres, c'est un territoire, c'est une Atlantide. C'est un territoire à part, c'est le monastère. C'est le monastère. Et donc, quand je dis que je me soupçonne de quelque chose de l'ordre de la terreur, je me demande si les livres, c'est pas s'il n'y aurait pas une démonstration de ce que ça de terrible. que ça, c'est à la fois attirant. On aime lire, on aime, et en même temps, il faut se retirer, il faut ne pas vivre pour écrire. C'est paradoxal, mais il faut avoir vécu des choses comme l'expérience très intense qui est décrite là. Mais en même temps, il faut arrêter de vivre. Il faut se retirer de la vie, donc ne plus sortir, ne pas manger, ne se couper de tout, de façon très très janséniste, intégriste presque. C'est comme une période de jeûne où il faut être pur, c'est religieux. Je suis totalement religieux, hein, ne me soupçonnez pas de de millénarisme, oui, mais
donc mais tout se passe bien dans Ictus, puisque tout finit par rentrer dans l'ordre.
On arrange un peu mais
vos souvenirs restent intact. Votre première rencontre avec Jérôme Lindon est un passage succulent de votre roman, parce que vous êtes jeune, parce qu'on est dans les années 70, parce que vous êtes très timide, mais vous êtes très audacieux en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous cette première rencontre.
C'est une bonne leçon de cet homme vénérable qui était effectivement l'esprit de la rue Bernard Palissy, si je me souviens bien, où Dieu sait que j'y suis allé. Et j'ai fini par y être publié, mais dans La Revue, qui était quand même une revue extrêmement cotée. C'était La Revue Minuit, ou Deux Minuits, je sais plus comment on disait. Deux fois, j'ai eu des textes publiés. Un texte sur Orson Welles, un texte sur qui s'appelait Un Oedipe américain. Enfin, toujours est-il que je me présente, je portais, oui, dans les années 70, alors que j'étais encore étudiant.
24 ans, vous aviez, à l'époque. Voilà. Ouais.
Donc je vais être en instance passage de l'agrégation. Enfin, j'ai présenté l'agrégation deux fois, ouais, en même temps que le CAPES, et puis avant de finir par gâcher un peu tout. Mais bon, c'est pas très grave. Et je portais des manuscrits régulièrement. Et donc un jour, sur les conseils d'Alain Robbe-Grillet, qui m'avait parlé au téléphone, qui s'intéressait à ce que qui avait apparemment été piqué parce que un des manuscrits que j'avais apporté, je ne serais plus capable de dire lequel, sans doute sur suggestion d'Alain Robbe-Grillet, Jérôme Lindon me dit, mais un jour où je venais rechercher des manuscrits, un de mes manuscrits, il me dit, mais c'est, dites-moi ce que c'est, résumez-moi votre démarche.
On devine très bien la scène, ouais. Vous avez 24 ans, et vous lui dites, c'est rien. Et lui, il vous dit, si c'est rien, pourquoi les faire lire? Pourquoi les éditer?
C'était assez beau, mais en même temps, je pourrais répondre la même chose aujourd'hui. Je suis d'ailleurs un peu embarrassé, parce qu'on m'a demandé de répondre à un questionnaire comme ça.
Pourquoi écrivez-vous?
Oui, c'est quoi votre projet? Et j'ai l'impression de correspondre peut-être les griots, les sorciers, les gens qui sont un peu possédés, qui ont des passages comme ça de vision, qui sont un peu pris dans, je suis visité par des orishas par moment, et puis ça sort de possédé un peu. Parce qu'il faut l'être pour écrire des livres. C'est quand même très, très, à la fois rebutant, exigeant, astreignant,
Bien sûr, vous barrez toutes ces mentions quand vous passez au statut de lecteur. Voilà, un réveil culturel qui sort de l'ordinaire, avec Bayon qui publie chez Fayard Ictus. Merci d'être passé.
Merci à vous, Toufik.
Bon, sinon, l'équipe est toujours la même. Vincent Abouchard à la réalisation, Corinne Amar à la coordination, Claude Nior pour la prise de son ce matin. Vous pouvez nous écouter en différé. L'abonnement au podcast de l'émission ainsi que l'écoute en ligne sont à retrouver sur franceculture.fr. À la page de l'émission Le Réveil Culturel. Demain, on parlera de l'exposition Fujita à la Maison de la Culture du Japon. Bonne journée. Thank you.